Écoute, merci Salvador de cette occasion de discuter et de Durkheim et de la question qui retient mon attention à l'heure actuelle sur effectivement la sociologie économique de la fête. Hein, c'est le titre que j'ai donné à cette présentation. Donc vous voyez effectivement Émile hein, tout en haut à droite avec son caractère sérieux comme on attend de lui, et j'ai contrasté cette première page de la présentation avec au milieu l'affiche des fêtes de Bayonne, et donc vous avez une représentation du roi Léon, j'en parlerai un petit peu plus en détail par la suite, et puis vous avez en bas à gauche une photo que j'ai faite, c'est pour ceux qui connaissent, c'est on est sur le quai Jaurès-Guibéry et on voit la rue Poissonnerie à Bayonne, puisque c'est le terrain à partir duquel je vais mentionner les premiers résultats que je pense pouvoir présenter dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui sur la sociologie économique de la fête. Et donc là, vous voyez l'acteur principal, en tout cas c'est celui que je vais mettre au centre de ma présentation, l'acteur principal de cette fête de Bayonne, c'est-à-dire la foule, dont j'espère l'image rend compte. Alors, suite à la demande de Salvador, j'ai effectivement sans difficulté tâché de, enfin en tout cas sans difficulté intellectuelle pour moi en tout cas, j'espère qu'il en sera de même pour vous, j'ai sans difficulté intellectuelle particulière pu combiner, me semble-t-il, cette dimension durkheimienne et la dimension plus concrète, empirique, de terrain, etc., sur la fête, hein, dans la mesure où c'est par là que je vais commencer, de rappeler des choses que vous connaissez très probablement, mais qu'il peut être bon d'avoir présenté à l'esprit pour la suite. J'ai pris comme point de départ, lorsqu'il s'agit de réfléchir à cette question de la fête, j'ai pris comme point de départ les travaux de Durkheim et de Mauss, pour une raison, me semble-t-il, assez simple. C'est que Durkheim et Mauss sont parmi les sociologues classiques les seuls à avoir pointé le phénomène de la fête comme un élément important de la science du social qu'ils sont en train d'élaborer. Et c'est une chose d'ailleurs un petit peu surprenante quand il réfléchit un petit peu de voir que cette question de la fête est si faiblement mobilisés par les sciences sociales dans leurs principes, en tout cas. Ça a guère changé depuis, pour les premiers tours de bibliographie que j'ai pu faire, il y en a peu. Donc, du coup, partir de Durkheim et de Mauss ne fait pas difficulté dans le cadre qui est le mien. Je pense qu'au contraire, il faut commencer par cela, et surtout parce qu'ils énoncent une thèse forte que vous connaissez aussi, c'est l'idée hein, d'une dissociation entre deux modalité de la vie sociale, la vie festive d'un côté et la vie sérieuse, celle de la vie économique essentiellement. Et je vais bien partir de là, mais c'est un petit peu aussi ma manière de faire lorsque je travaille à partir des textes classiques, c'est de les mettre à l'épreuve. Et en l'occurrence, je défendrai en tout cas pendant, enfin aussi loin que cela est possible, je défendrai l'idée que, contrairement à ce qu'ils ont avancé, il y a de nos jours une très forte imbrication de la fête, du festif et de l'économique. Et donc là, je vais les faire jouer à contre-temps, à contre-courant, et je vais les prendre à front renversé en quelque sorte. Et pour cela, je m'appuierai donc sur les premiers résultats de mon travail d'enquête sur les fêtes de Bayonne, dans la mesure où il s'agit d'examiner concrètement un petit peu cette thèse et de voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors, au-delà de cette référence durkheimienne, qui n'est pas, un artefact lié à l'invitation qui a été faite ici aujourd'hui, hein, de combiner un petit peu à la fois mes travaux actuels et une commémoration d'une certaine façon de Durkheim. C'est pas un artefact, je vais essayer de vous le montrer dans la suite, mais au-delà de ça, il y a, me semble-t-il, des questions aussi qui englobent celles que je viens d'évoquer en faisant référence à Durkheim et à Amos. C'est un problème qui est un des problèmes structurants de la sociologie économique, en tout cas d'une partie de la sociologie économique, savoir comment culture et économie se combinent, hein, dans la mesure où, d'une certaine façon, si je reviens pour faire image, vous voyez là, je reviens à cette présentation au travers de l'affiche des fêtes de 2017. Hein, quand je dis culture, c'est la culture du Pays basque. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont allés là-bas ou qui la connaissent un peu, on en voit les marqueurs très très précisément. Hein, le roi Léon a un béret basque rouge là, qui est en train de sauter au-dessus de sa tête. Il est en pleine joie, etc. Le roi Léon est en train de jouer d'un instrument de musique. C'est un instrument de musique très classique au Pays-Bas, ça s'appelle le tchistou, une petite flûte qui se joue avec un tambourin en général. Donc il y a des concerts de tchistoulari et ils interviennent dans la fête. Et d'ailleurs, on voit le petit tambour avec les deux pour frapper. À côté de cela, il y a, vous voyez, une gourde au-dessus du tambour. Hein, c'est la gourde traditionnelle du Pays basque. Hein, c'est le charakoua, dans lequel on boit le vin, et on boit ce vin-là à la régalade, c'est-à-dire sans que la bouche touche l'embout de la gourde. Et pour finir, pour très rapidement hein, indiquer cette dimension culturelle, en tout cas celle à laquelle je fais référence, hein, vous voyez que le pied droit du roi Léon est chaussé avec une semelle un peu particulière, c'est parce qu'il porte des espadrilles dont la semelle est en corde. Donc, ce sont des signaux, effectivement, peut-être imperceptibles pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais pour celles et ceux qui connaissent, c'est évident, on est au Pays Basque, et donc cette culture, qui n'est pas la haute culture à laquelle s'intéresse Bourdieu ou Horkheimer et Adorno, etc., mais c'est une culture populaire dont j'examine la manière dont elle se coule très facilement dans des événements festifs à forte dimension économique. Et donc, c'est cet intérêt également qui est au point de départ de ce travail. Donc, vous voyez, dernier élément qui est aussi un marqueur hein, culturel, c'est que vous voyez écrit en gros en haut de l'affiche « Fête de Bayonne ». Mais si vous faites attention un petit peu plus bas, vous voyez qu'il y a la même annonce en basque, Bayonako Bestak, et vous avez aussi l'annonce en béarnais, puisque pendant très longtemps à Bayonne, on parlait le béarnais. Le fondateur des fêtes de Bayonne, sur lequel je reviendrai, parlait couramment le béarnais, écrivait des pièces de théâtre en béarnais. Hein. C'est donc las gestas de Bayones. Et donc, vous avez cette dimension culturelle qui est très précise, me semble-t-il, dans ces affiches, depuis peu de temps d'ailleurs, mais on peut décoder cette dimension culturelle. Et à ce titre-là, malgré toutes les réserves que j'ai sur cet ouvrage et dont j'ai rempli un compte-rendu dans Le Monde, donc ça fait écho au travail, en tout cas une partie du travail très récent de Luc Boltanski et Esker sur la notion d'enrichissement, c'est-à-dire la manière dont les dimensions culturelles enrobe d'une certaine façon un certain nombre de produits, là en l'occurrence ici des produits marchands, la fête, on se déplace pour la fête, et comment cet enrobement culturel contribue à donner de la valeur, à la fois culturelle mais aussi économique, à des produits. Et donc de ce point de vue, la fête rencontre des problèmes à la fois anciens, je vais y venir dans les minutes qui viennent, et récent dans les sciences sociales françaises. Donc premier pas de la démarche, en quelque sorte, cette dimension durkheimo-mossienne liée à la notion de fête. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les durkheimiens sont les seuls sociologues classiques à s'intéresser à la notion de fête. Ça se trouve, me semble-t-il, essentiellement dans deux textes hein, bien connus. Le premier texte, c'est un article de Mauss et Beuchat dans l'année sociologique à propos de la vie sociale des Esquimaux. Alors, je pense qu'initialement, c'était un texte qui devait être écrit par Beuchat, mais qui ne devait pas correspondre au canon de la revue Et Mauss est venu en deuxième plan pour réécrire, en fait, et le mettre dans la norme durkheimienne. Le deuxième texte, bon, bien évidemment, c'est les passages bien connus sur l'effervescence sociale qui se trouve dans les formes élémentaires de la vie religieuse, publié par Durkheim en 1912. D'ailleurs, ces textes sont en écho. Hein. Durkheim va citer au sein de ces passages l'article de Mauss et Boecha, hein, qui est dans la même, donc il se met dans la même lignée que ces deux premiers auteurs. Et cet intérêt que Durkheim Mauss apporte à la question de la fête aboutit à une dissociation, pas absolue, je ferai quelques remarques là-dessus, de dissociation entre deux mondes sociaux, le monde de l'économie et le monde de la fête. Alors, pour fixer les idées d'une manière synthétique, hein, puisque là, ce sont des choses, je pense, bien connues de vous, ou en tout cas faciles à se remémorer. Donc, le fameux passage dans les formes élémentaires, hein, donc très rapidement, hein, la vie des sociétés australiennes passe alternativement par deux phases différentes. Tantôt, la population est dispersée par petits groupes qui vaquent indépendamment les uns des autres à leurs occupations. Chaque famille vit alors de son côté, chassant, pêchant, cherchant en un mot à se procurer la nourriture indispensable par tous les moyens dont elle dispose. Tantôt, au contraire, la population se condense pour un temps qui varie de plusieurs jours à plusieurs mois sur des points déterminés. Ces deux phases contrastent l'une avec l'autre de la manière la plus tranchée. Donc on voit bien le clivage qui est à la base de la réflexion de Durkheim. Dans la première, l'activité économique est prépondérante et elle est généralement d'une très médiocre intensité. Mais qu'un corroboris ait lieu et tout change, parce que les facultés émotives et émotionnelles du primitif se sont qu'imparfaitement soumises au contrôle de sa raison et de sa volonté, etc. Donc on voit bien la dissociation qui est au cœur de la thèse de Durkheim. On va trouver avec Mauss et Boecha exactement la même configuration. Alors le texte est un petit peu plus long, il ne comporte pas un passage aussi net, aussi affirmé que celui que je viens de citer en faisant fond sur les formes élémentaires, mais on peut tirer du texte de Mauss et Boecha toute une série d'oppositions entre l'hiver et l'été, hein, l'été étant la période de l'activité économique, donc de la dispersion, l'hiver étant au contraire la période de la condensation de la population des tribus esquimaux. Et donc vous voyez terme à terme les oppositions qui se mettent en place. Hein. L'habitation est dense en hiver, donc les individus se regroupent. L'habitation est au contraire éparpillée en été. Les gens les membres de la tribu sont dispersés sur le sol pour la recherche de la nourriture, comme le disait Durkheim. La population est immobile dans le cas de l'hiver. Elle reste confinée dans les habitations et le lieu où les habitations sont construites. Elle est mobile, au contraire, dans le cas de l'été. Le gibier, lui aussi, va être concentré dans des lieux, alors qu'au contraire, il est éparpillé en été. La vie religieuse est forte dans les moments de condensation de la population, faible dans l'autre cas, et y compris, ça c'est quelque chose que Durkheim ne reprend pas ou ne reprend pas avec la même vigueur, la nature des droits et la manière dont le droit est appliqué diffèrent selon Mauss et Boecha. Le droit personnel, dans le cas de l'hiver, c'est la sanction morale, alors qu'au contraire, dans le cas de l'été, c'est la vendetta qui va intervenir, donc un mode de contrôle social beaucoup plus violent, plus dur. Et les droits réels eux-mêmes, c'est-à-dire les droits sur les objets, sont différents. Le droit est collectif, une forme de communisme, d'une certaine façon, on pourrait dire, alors qu'au contraire, en été, au moment de l'éparpillement, les droits sont individuels. Donc on a une structuration, un clivage social entre les deux périodes qui sont ici extrêmement forts, je crois, et chez Durkheim et chez Marcel Mauss. Alors, j'ai pas fait une page de présentation PowerPoint explicitement là-dessus, mais je pense qu'il est nécessaire de rajouter peut-être un certain nombre de limites. Il me semble que l'une d'entre elles me paraît particulièrement importante pour modérer ce que ces oppositions ont de strict, d'une certaine façon. Et la limite que rappelle et Mauss et Beuchat d'un côté et Durkheim de l'autre, c'est le fait que les fêtes, et notamment les fêtes à dimension religieuse, hein, dont on voit bien la force à la fois dans le texte de Durkheim et ici dans ce résumé sous forme de tableau que je donne là pour le texte de Mauss et Beuchat, c'est une dimension sur laquelle, c'est une thèse selon laquelle la dimension religieuse de la fête, qui est présente dans les deux cas, a une dimension économique. Alors, je fais référence ici, me semble-t-il, à deux éléments qui sont similaires, mais déclinés différemment en fonction des tribus qui sont considérées. Cette référence qui va du religieux vers l'économique joue par le biais du symbolique, hein, bien évidemment, c'est-à-dire le fait que par la fête, il s'agit d'une certaine manière de créer les conditions religieuses de reproduction de ce qui sert d'aliment à la tribu. C'est-à-dire que la fête, le korobori et la fête religieuse, c'est aussi une fête en l'honneur des animaux totémiques, de façon à ce que ceux-ci se reproduisent. Et si on reproduit les animaux totémiques, on est en train de reproduire les conditions économiques de la vie des Arunta. De la même façon, mais présenté différemment, Mauss et Beuchat font référence au fait que dans le cadre des fêtes d'hiver réalisées par les tribus esquimaux qu'ils ont étudiées, un moment de la fête est consacré, alors je crois que c'est la fête de la vessie des animaux marins qui sont chassés. Cette fête de la vessie consiste à ce que la tribu réunisse toutes les vessies des animaux qui ont été abattus au cours de l'année et les rejette à la mer de façon, en quelque sorte, à ce que la tribu, par le biais de cette forme de don très particulier que la nature leur fait en multipliant les animaux, la tribu, au moment de la fête, fait, c'est pas le langage qu'utilise Mauss, mais je pense qu'on peut très facilement appliquer l'essai sur le don là, à cette question-là, fait un contre-don à la nature, rendant les vessies de façon à multiplier la population d'animaux marins, phoques notamment, dont ils consomment la chair et dont ils utilisent la graisse pour les huiles dont ils ont usage. Et donc, cette dimension-là signifie qu'il y a bien une rupture très forte qui est marquée par les deux auteurs, mais ce n'est pas une dissociation complète. La fête a aussi, par le biais du symbolique et des mécanismes de don et contre-don avec la nature, une dimension économique dont il ne faut pas, je crois, oublier l'existence, de façon à éviter de rigidifier trop avant les arguments de Mauss et Durkheim. À la suite de leurs travaux, je pense qu'il faut fixer, là encore, les mémoires et noter le fait que cette dissociation présente chez Durkheim et Mauss va être accentuée dans les travaux de Georges Bataille et de Roger Caillois. Alors, le clivage, là, va être approfondi sans, en quelque sorte, les forces de rappel que je viens d'évoquer et dans le cas de Durkheim et dans le cas de Mauss. On va avoir, au contraire, un approfondissement de ce clivage avec, d'une part, l'idée que la fête, selon Caillois, renvoie à un temps primitif, le Urzeit, c'est-à-dire un moment où, en quelque sorte, on retrouve les origines du monde avec ses côtés démesurés, en quelque sorte, orgiaques, hein, pour le dire plus clairement. Donc ça, c'est une première version avec Caillois. Et dans le cas de Bataille, c'est une mise en œuvre, en quelque sorte, d'une thèse que je qualifierais personnellement de métaphysique, une métaphysique de la surabondance cosmique de l'énergie, hein, qui implique la nécessité de la dépense. Et la fête renvoie donc à cette métaphysique, en quelque sorte, primitive de la création de l'univers, en quelque sorte. Dans un cas, c'est la création de la société, dans l'autre cas, ou de l'humanité, dans l'autre cas, c'est la création de l'univers. Et pour avoir lu un petit peu à la suite les uns des autres ces auteurs, il me semble que ceci se prolonge à sa manière avec Jean Duvigneau et éventuellement jusqu'à Michel Maffezoli dans ce qu'il propose comme une sociologie dionysiaque, une sociologie de l'orgie, etc. Et donc là, on va avoir une dissociation très forte qui va se mettre en place et à lire. Comprenez bien que je peux avoir éventuellement du problème à lire la plume à la main, les travaux de Michel Maffezoli, mais bon, on y arrive quand même en partie. Bah oui, il y a une façon de faire qui n'est pas la mienne, et je pense réciproquement d'ailleurs, mais donc on fait quand même les efforts nécessaires. Et quand on lit ça, on voit bien que la dimension essayiste, hein, pour parler comme Durkheim, a pris le dessus. Mais néanmoins, bon, il faut faire l'effort de les lire et voir un peu jusqu'à quel point cet approfondissement se fait, qui fait que la dimension économique disparaît complètement dans leur cas. Et d'une certaine façon, le titre même d'un des ouvrages de Duvigneau, hein, Le don du rien, ça signifie que, eh bien, on peut faire la fête à partir de rien, sans aucune organisation. La fête est en quelque sorte autopoïétique, elle se crée d'elle-même sans rien, sans avoir une quelconque structuration. Or, bien évidemment, dans le cas qui est celui de l'approche de sociologie économique de la fête, qui va être le thème que je vais introduire, je suis orthogonal à cette manière de faire. Au contraire, c'est cela que je veux introduire. Par l'intermédiaire d'une exception dans la littérature que j'ai parcourue, qui est le travail de Maria Isaura Pereira de Queiroz, qui a travaillé sur le carnaval brésilien en montrant son éloignement progressif du carnaval portugais dont il est originaire, et qui a montré à la fois, me semble-t-il, deux choses. Un certain côté de la dimension organisationnelle et en partie même économique avec la création des écoles de samba, à la fois à Rio essentiellement, mais aussi dans d'autres parties du Brésil, et l'association étroite entre les écoles de samba et comment dire, des quartiers de la ville, les blocos, qui vont être associés à cette montée d'une fête populaire qui déplace la fête aristocratique issue du Brésil. Moyennant quoi, cette collègue anthropologue brésilienne montre l'existence d'un lien fort entre la structure sociale, blanc, noir, riche, pauvre, et la nature de la fête et l'évolution de la fête, et notamment du carnaval brésilien. Donc je vais reprendre cette filiation-là, en quelque sorte, déjà en partie fixée par ce travail de Pereira de Queiroz, mais je vais la suivre avec une modification, puisque mon problème n'est pas tellement de montrer, je suis assez d'accord, et même d'une certaine façon, je dirais qu'elle prend un marteau-pilon pour écraser une mouche, oui, évidemment, même l'inversion des relations sociales ou la structuration sociale montre que la structuration sociale reste toujours présente, mais je vais le prendre différemment, ce lien, en voyant, d'une certaine façon, quels sont les éléments concrets qui permettent la mise en place de la fête dans un cadre moderne. Et donc, je m'intéresse d'une certaine façon, je le dis comme ça parfois quand je rencontre les personnes avec qui avec qui je sollicite des entretiens ou faire des observations participantes, etc. Je leur dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les travailleurs de la fête. C'est une formule d'ailleurs rarement utilisée, que discuter avec des collègues de sociologues du travail. La notion de travailleur de la fête ne va pas de soi, n'est pas véritablement travaillée. Alors que si vous vous rendez dans les fêtes de Bayonne ou d'autres fêtes du même genre, eh ben, il y a des gens qui passent des journées entières, des soirées entières à servir les festaires, et donc c'est le terme indigènes dans le sud-ouest, les gens qui viennent faire la fête, bah, il faut les nourrir, il faut les approvisionner, il faut approvisionner les gens qui les nourrissent, etc. Donc il y a un immense travail qui se joue en arrière-plan. Et le premier lien, en quelque sorte, que je veux saisir, c'est celui-là. Alors, une fois que ces préliminaires sont faits, j'en viens maintenant au terrain à partir duquel je vais essayer de donner corps un petit peu à ces intuitions. J'en suis qu'au début de la recherche. J'ambitionne de mener cette recherche sur 3 ans. Donc, je n'ai fait qu'une seule année d'observation dans les fêtes pour l'instant. Je n'ai pas encore complètement dépouillé toutes les archives parce qu'elles sont quand même assez volumineuses. Mais j'espère en avoir suffisamment sous la main, en quelque sorte, pour fixer quelques idées et pouvoir discuter donc ces thèses durkheimiennes que j'ai évoquées dès le début. Alors, premier élément, je crois, à noter, c'est que les fêtes de Bayonne sont des fêtes nouvelles, au sens où elles ne sont créées qu'en 1932, et elles sont créées à partir de rien. Il n'y avait pas de fête patronale, etc., qui aurait été, comment dire, revivifiée ou renforcée, etc. Non, on crée des fêtes à partir de rien, et avec d'ailleurs un certain toupet ou culot, comme on voudra, elles sont dénommées par le créateur des fêtes traditionnelles. Première année, et en plus j'ai eu la chance de trouver dans un énorme dossier du créateur des fêtes, que je vais exploiter très modestement dans les minutes qui viennent, et il a même un discours en disant pourquoi j'appelle traditionnelles les fêtes de Bayonne alors que je suis en train de les créer. Hein, donc c'est pas par hasard, c'est quelque chose qui est pensé, qui est argumenté en quelque sorte. La tradition renvoyant bien évidemment à la culture basque, je pense que vous l'avez compris. Donc ces fêtes de Bayonne sont créées donc en juillet 1932 et elles sont créées par un personnage qui est à la fois central dans la ville et pour la création des fêtes et en même temps décalé. Décalé parce que donc c'est le contexte, si j'ose dire, socio-historique propre au Pays Basque. Bayonne est traversée par deux rivières, la Nive d'une part et la Dour. Et donc Bayonne, telle que nous connaissons maintenant, englobe les parties qui sont donc le vieux Bayonne qui sont du côté donc Nive. Et au-delà de la Dour, c'était le quartier Saint-Esprit qui n'appartenait pas à Bayonne. Et dans le quartier Saint-Esprit, avaient droit, et c'était le seul lieu où ils pouvaient s'installer, les juifs maranes en provenance du Portugal qui fuyaient l'Inquisition, une fois que le Portugal était relié à englobé dans la couronne d'Espagne. Et donc Gomez, le créateur de la défaite, est un architecte juif, donc issu de ces familles qui sont de l'autre côté de la ville, donc il est en quelque sorte un peu marginal dans la ville. Mais c'est un marginal qui est parfaitement intégré parce que c'est un architecte de renom, un grand amateur d'art déco qui a produit beaucoup de bâtiments qui restent marquants dans la ville et qui est très bien introduit dans l'élite politique et sociale malgré son caractère en quelque sorte marginal. Et ce Benjamin Gomez donc va à titre de membre du comité des fêtes et de membres du conseil municipal présenter les fêtes au conseil municipal qui va accepter la création donc en 1932 des premières fêtes. Donc vous avez l'affiche des fêtes qui a été dessinée d'ailleurs par Benjamin Gomez lui-même. Et dans la présentation qu'il fait, puisque le discours qu'il a fait se trouve dans ses archives et j'ai pu le retrouver, voilà donc ce qu'il écrit. N'oublions pas en effet que les fêtes, qui sont les sourires des villes, sont toujours bienfaisantes au commerce. On ne peut pas être plus clair. Hein. La fête, elle n'est pas coupée de l'activité économique. Elle est pleinement et explicitement placée sous le registre du commerce. L'argent dépensé pour la réalisation d'une fête demeure presque entièrement dans la ville. Il entre dans les caisses de nos commerçants. L'apport étranger que nous vaut une intelligente publicité et le renom jamais démenti des fêtes de Bayonne, elle n'existe pas encore à l'époque, hein, il est quand même gonflé, hein. Jamais démenti des fêtes de Bayonne peut être considéré comme un heureux supplément. Donc c'est un extrait, il n'y a pas que ça bien évidemment dans son discours, mais vous comprenez qu'avec un terrain pareil, l'idée d'une dissociation radicale entre la fête et l'économie ne fonctionne pas. Alors, ça s'explique très facilement, il suffit de regarder les registres du conseil de la ville et les autres parties de l'argumentaire de Benjamin Gomez. On est en 1932, c'est le moment où la crise financière qui démarre en 29 aux États-Unis. En 1932, elle frappe de plein fouet la France, qui a été touchée plus tardivement que les autres pays. En 1932, le maire est sollicité pour créer un fonds pour les chômeurs. Il dit non, on n'en a pas besoin, et puis il est obligé de le créer. Et puis au fur et à mesure des années qui viennent, c'est ce qui lui coûte le plus cher, etc. Donc on est en pleine crise. Deuxièmement, on est en 1932, c'est-à-dire une période où cette génération a encore la marque extrêmement forte du massacre de 14-18. Et donc, est-il légitime de faire la fête alors que tant d'entre nous pleurent encore les morts? Et il dit oui, il faut savoir tourner la page, etc. Donc, c'est une situation un peu difficile de crise, à la fois politico-social, d'une certaine manière, avec les relents de la guerre, mais également une crise économique avec la crise de 1932. Et donc, d'une certaine façon, alors je ne vais pas le développer là, éventuellement je le développerai dans la partie des questions, si jamais on aborde ce sujet-là, il y a d'une certaine façon ici, chez Gomez, ce que j'appellerais un keynésianisme municipal, hein, c'est-à-dire, il faut de la dépense. Et il va y avoir une espèce de multiplicateur de la dépense qui va jouer, parce que précisément, hein, comme il le dit, l'argent dépensé pour la réalisation d'une fête demeure presque entièrement dans la ville. C'est-à-dire, il y a en gros l'idée que la ville est une économie fermée. Ce qu'on y dépense reste là, ce que les étrangers dépensent viennent accroître, et donc c'est une bonne affaire économique. Hein, donc c'est quand même un élément important de son argumentaire. Alors, pardon, on le voit, si vous voulez, mais peut-être pas très très bien sur l'affiche. Le bas de l'affiche, hein, il y est marqué braderie, journée réclame, hein, du commerce bâillonné. Hein, donc, dans le dernier élément en bas, hein, de l'annonce de la défaite, on annonce une braderie, c'est-à-dire le moment où le commerce va pouvoir battre son plein. J'ai pris aussi également là, des affiches de fêtes qui suivent, 1947, 49 et 50. Il n'y a pas celle de 1948 qui n'a pas été créée. Et vous voyez, à chaque fois, on a bien les éléments annonçant la fête, hein, les fêtes traditionnelles, on a les éléments Bayonne, les dates, etc. On voit bien le côté, notamment dans la dernière de 1950, le côté joyeux de tout cela. Mais en dessous, on bradera, on bradera, on bradera. C'est-à-dire... le commerce reste toujours présent et de nos jours, c'est-à-dire en 2017, la braderie, l'activité commerciale est mise à part, c'est-à-dire qu'elle intervient le lundi et le mardi avant l'ouverture explicite des fêtes le mercredi soir. Donc cette dimension reste toujours bien évidemment très présente du début jusqu'à la fin, ce qui permet de faire le lien, en tout cas un premier lien, qui remet en cause, hein, vous l'avez compris, l'argument de Durkheim et de Mauss. Alors, là je reste très sommaire, parce que sinon ça demanderait un exposé à lui tout seul, donc l'exploitation des archives de Benjamin Gomez et des archives de la mairie. Juste un mot, puisque là j'ai réuni pas mal de documents à propos de l'année 1936, avec une affiche des fêtes tout à fait exceptionnelle. Personnellement, bah, après tout, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est une des plus belles affiches qui ont été faites, une très belle affiche Art déco de 1936 sur les fêtes de Bayonne. Et pour cette année-là, j'ai les comptes de la fête et on voit apparaître l'implication de la dimension économique dans l'organisation des fêtes, puisque... le financement, grâce à un travail extrêmement actif des organisateurs pour solliciter les commerçants et obtenir d'eux qu'ils payent d'une certaine façon des droits, enfin qu'ils mettent la main à la poche pour financer les fêtes, ça se monte à 32% du budget de la fête de 1936. La municipalité, par l'intermédiaire donc des impôts qu'elle collecte, contribue aussi à la fête, 32%, et le public lui-même est sollicité, hein, 37% pour différentes animations, notamment toutes les animations taurines. Hein, les fêtes sont à la fois le lieu de corrida, au sens propre du terme, même si on est un petit peu latéral à la fête, mais aussi de course de vaches. Hein, c'est la course de vaches landaise, en quelque sorte, où il y a un jeu avec les vaches, mais il n'y a pas... De mise à mort. Il n'y a pas non plus l'enciero qui existe dans les fêtes de Pamplona et San Fermines, qui sont extrêmement dangereuses, mais ce côté-là a été mis de côté aussi. Mais donc tous les jeux taurins sont payants et donc les festailles sont amenées à financer d'une certaine façon une partie des fêtes elles-mêmes. Alors, éventuellement, j'y reviendrai plus tard. À l'heure actuelle, il y a un débat qui est très important au sein de la mairie et du comité des fêtes pour savoir si on ne va pas justement soulager les finances de la mairie et donc les impôts payés par les habitants de la ville de Bayonne en faisant payer un droit d'entrée au festival pour rentrer dans les fêtes, ce qui n'existe pas pour le matin. Et donc, vous comprenez bien que pour le sociologue économiste que je suis, assister à ces discussions en amont sur comment on peut faire, quelles sont les questions juridiques, politiques, etc., autour de ça, c'est un très bel objet, une belle manière de voir apparaître beaucoup de choses dites ou non dites dans l'organisation des fêtes. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a un petit peu ce panorama, je ne fais que l'indiquer parce que je voudrais passer à un dernier élément qui est un petit peu la construction de l'objet fête ou la construction de l'objet de l'approche sociologie économique de la fête. Très rapidement, il me semble que sur la base des éléments que je viens d'évoquer, il n'est pas compliqué de comprendre qu'on peut organiser une réflexion de sociologie économique à la croisée des apports de Polanyi et de Marcel Mauss, de l'organisation de la fête, qui demande à la fois de faire se rencontrer la dimension de redistribution, la mairie prélève des impôts et les redistribue au travers des subventions qu'elle donne pour la fête, la dimension de réciprocité, les associations sont extrêmement importantes avec les bandas et qui sont adossées à des clubs, et les peñas, qui sont initialement des clubs taurins, mais qui sont devenus des peñas festives et qui contribuent elles aussi largement à l'activité des fêtes de Bayonne contemporaines. Et enfin, le marché, avec bien évidemment l'importance considérable des restaurants et des bars qui sont de fait les principaux bénéficiaires économiques de la fête, puisque c'est pour eux que la dépense se fait en premier lieu. Alors j'en viens maintenant, une fois que ces différents éléments ont été présentés, à la fois dans le passé d'une part de la théorie sociologique et le passé de la création des fêtes, même si sur le deuxième volet, je m'en excuse, je suis extrêmement rapide, j'en viens donc à la démarche propre de sociologie économique de la fête sur laquelle je suis en train de travailler. Donc là, ce sont des pistes de recherche. Hein. Donc c'est, comme on le dit, de la recherche en train de se faire, non pas de la recherche actée, définie. Mais en tout cas, j'espère que c'est suffisamment organisé pour donner lieu à une présentation et une discussion productive et pour vous et pour moi. Et donc, comment construire l'objet fête au sens de la sociologie économique dans le monde contemporain ? Alors, je voudrais insister, pas trop, peut-être qu'on y reviendra encore une fois, mais c'est un point qui me tient à cœur et qui peut me mettre aussi un petit peu en porte-à-faux par rapport aux références initiales, c'est-à-dire que dans le travail que je mène, je suis de plus en plus conduit à considérer que si on veut examiner en sociologue de l'économie les phénomènes économiques ou socio-économiques contemporains, avec le plus grand regret, mais fermement, il faut couper le pont avec l'anthropologie. Pourquoi ? Et en quel sens ? Eh bien, c'est parce que, c'est en tout cas une thèse que je soumets à votre discussion, mais à laquelle j'étais conduit progressivement, on ne peut pas englober avec des termes aussi généraux, par exemple ceux de Polanyi, redistribution, réciprocité, marché, on ne peut pas englober la multiplication des phénomènes économiques qui sont créés dans nos sociétés contemporaines et en même temps ce qui se passait dans les sociétés très, très anciennes. Il y a une telle efflorescence de phénomènes économiques contemporains qu'il me semble qu'arrive un moment, sans oublier bien évidemment tout ce qu'on a pu apprendre grâce à l'anthropologie ou à l'ethnologie économique, il ne s'agit pas de l'oublier, mais je pense qu'il faut à un moment se recentrer sur le contemporain et dire, voilà, là, il y a des phénomènes nouveaux qui se jouent. Il y a des mécanismes d'échange, de transfert de ressources nouveaux qui se mettent en place, qui vont s'emboîter avec d'autres, et tout ceci n'existait pas, même au XVIe siècle. Et encore moins dans les tribus Arunta ou dans les tribus Trobriand qu'a étudié Malinowski. Et donc, il y a un moment, il faut, je crois, prendre le temps de se concentrer sur le monde contemporain. Et c'est la raison pour laquelle, ici, je précise bien, c'est la fête dans le monde contemporain qui retient mon attention, sans trop chercher à englober en même temps ce qui se passait dans un passé plus lointain. Ceci est bien évidemment présenté pour la discussion et non pas pour ouvrir la discussion, non pas la fermer. Alors, si ces précisions étant faites, les lectures des documents qui sont à la fois les archives, les articles de presse ou les comptes rendus qui sont faits des fêtes contemporaines, les entretiens et les acteurs eux-mêmes et les observations convergent, à mon avis, vers un même phénomène, un même fait social en quelque sorte, un fait social morphologique. L'acteur de la fête, c'est la foule. Et donc, c'est de la foule dont il faut partir. Et vous avez là deux photos. La première était aussi sur la première page. Vous avez donc là, en bas donc, de la rue Poissonnerie, c'est un des hauts lieux, ce qui est dans le discours indigène, c'est ce qu'ils appellent le quartier d'or. C'est-à-dire que là, c'est vraiment paquet. À titre de, comment dire, de comparaison, enfin, à titre d'image plus exactement, bon, moi, j'habite tout à côté quand la fête se déroule. Et il m'a fallu un quart d'heure pour arriver, en étant devant le comptoir là, du bar qui s'appelle le Churrasco. Il m'a fallu un quart d'heure en me faufilant pour arriver au comptoir et pouvoir commander. Donc, c'est vraiment très, très dense. Là, je pense que l'image vous le montre bien. Sinon, là, vous avez une photo de vue d'en haut de la rue des Basques. Et là encore, donc, vous voyez peut-être pas très distinctement, mais au milieu, il y a des tables, il y a des gens qui sont en train de manger. Et autour passent des bandas qui font de la musique en même temps. Et donc, là encore une fois, c'est extrêmement peuplé. Et tous les gens qui sont allés aux fêtes de Bayonne récemment savent que dans cette rue, notamment dans la rue des Basques, il y a des moment où vous ne choisissez pas le sens dans lequel vous allez. Si la foule arrive, ben vous reculez, hein, ou bien vous plaquez au mur, presque comme il y a une avalanche, vous plaquez au mur en attendant que ça défile, et ensuite vous essayez de prendre votre chemin. Il y a vraiment une masse humaine qui est assez surprenante, et qui est, me semble-t-il, véritablement l'acteur de la foule. En tout cas, c'est comme ça que je vais présenter mon sujet. Alors, premier élément, pour un peu de justificatif, hein, pour pas donner le sentiment, c'est simplement une observation personnelle, un peu décalée, une forme de, comment dire, de subjectivité. Là j'ai mis trois affiches des fêtes de Bayonne, et vous voyez que sur chacune d'entre elles, d'une manière différente, vous voyez, donc c'est 2006, 2007, 2009. Quel est le personnage central sur l'image ? À chaque fois, c'est la foule. Alors, sous des formes, bien évidemment, graphiques et esthétiques différentes, mais derrière Bayonne, c'est la foule. La foule qui est représentée derrière la première, celle qui est sur le pont, celle qui est sur la place de la mairie ou dans un lieu mal défini, c'est la foule. Et donc c'est bien elle que je vais prendre comme l'acteur central de cette sociologie économique des fêtes. Alors, comment faire ? D'une manière assez classique, je vois une production, distribution, consommation, économie classique, le triptyque habituel, qui se décline, me semble-t-il, de la manière suivante. Alors, premier élément qui me paraît un élément central que je vois apparaître dès les fêtes de 32 dans les documents de Benjamin Gomez, ce qu'il s'agit de faire pour l'organisation. Et ce n'est pas un mince boulot, il y a des dizaines et des dizaines de courriers qui sont faits par Benjamin Gomez sur ce point-là. Il faut faire venir la foule. Et donc, c'est ce que j'appelle la production de l'affoulement. Faire venir les gens en masse pour créer le personnage au centre de la fête, la foule. Alors, ce n'est pas une formule qui est simplement destinée à faire un petit effet de manche en disant, ben voilà, tiens, on ne s'attendait pas à ça, la foule, etc. Ce n'est pas uniquement non plus un texte ou un terme qui se trouve dans des archives. Voilà deux photos que j'ai prises dans mes observations avant le début des fêtes. Donc, on doit être le dimanche. Les fêtes vont commencer par les braderies dès le lendemain. Et qu'est-ce qu'on voit le dimanche après-midi ? On voit, donc, c'est la photo qui est à votre gauche. On voit des espèces de protubérances, en quelque sorte, c'est-à-dire des qui sont dans les rues. Là, on est rue Panneco, pour ceux qui connaissent. Des protubérances qui sont les moyens avec lesquels les bars vont pouvoir accroître le linéaire de service sans faire rentrer les festailles à l'intérieur du bar. Parce que sinon, la porte d'entrée ferait blocage entre ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent sortir. Donc, on produit ces protubérances et il y en a des dizaines. Il y a 250 lieux de consommation dans la ville, et donc à peu près 250 formes de protubérances qui vont naître dans une petite partie de la ville. Et donc là, vous les voyez en construction. Deuxième élément qui intervient aussi et qui massivement saisit le regard de l'observateur que je suis, mais aussi des gens qui viennent à Bayonne, c'est au contraire ceux des commerçants qui ne servent pas ni à manger ni à boire, eux se protègent de la foule. Et donc, comment se protège-t-il ? Il y a donc des planches en bois ou en contreplaqué ou en aglo que l'on cloue sur les vitrines de façon à ce que la pression de la foule ne les fasse pas exploser à certains moments. Donc, on se protège de la foule, soit parce qu'elle va venir et il faut en profiter, soit au contraire, il faut s'en prémunir. Donc, il y a en quelque sorte, là, de manière très, très précise, hein, le sentiment par les uns, positivement, négativement par les autres, de l'arrivée de la foule. Et d'une certaine manière, ça peut donner le sentiment, quand on regarde ce qui se passe dans Bayonne, la transformation de la ville avant la fête, on se dit, mais on est dans une ville assiégée, il va y avoir un bombardement, et une invasion d'une armée étrangère qui va venir tout casser. Ça peut donner cette impression-là. Non, c'est les fêtes qui se préparent. Deuxième élément de la fête, c'est un élément auquel je commence à le toucher, à le cerner, mais qui est véritablement apparu par l'observation de ce qui se passe pendant les fêtes. C'est ce que l'appelle la distribution de l'affoulement. Il y a là quelque chose ici qui, je crois, vaut la peine d'être mentionné, même rapidement, en ceci que les fêtes de Bayonne, on pourrait dire, bah oui, mais finalement, c'est un petit peu comme le Hellfest, ou ça va être comme un festival de musique, etc. Non. Non, pour une chose bien précise. C'est que quand on... il y a eu un très beau petit travail d'un anthropologue de Poitiers sur le Hellfest que j'ai lu, je discute avec lui, c'est assez intéressant justement de comparer nos expériences de terrain. Et ce que l'on voit apparaître dans son cas, c'est que il va y avoir une grande scène et puis éventuellement deux autres petites scènes en même temps. Donc distribution sur un seul point, ou éventuellement deux, trois peut-être, pas plus. Or, dans le cas des fêtes de Bayonne, on est dans un schéma complètement différent. Et grâce à ma participation au comité extra-municipal des fêtes, où j'ai fini par être accepté, jamais très facile pour un sociologue d'aller mettre son nez dans ce genre de choses, mais on finit quand même par y être accepté, je me suis rendu compte qu'il y a une attention extrêmement forte de la part des membres du comité extra-municipal des fêtes pour dire « attention, on va avoir 1 million de personnes sur 10% de la surface de la ville qui en comporte 42 000. Donc on est dans un volume de population tout à fait considérable. Et il ne s'agit pas que toute cette population se concentre sur un seul lieu. En conséquence de quoi ? Et c'est ce que j'ai marqué, je pourrais le montrer en prenant le programme des fêtes de 2017. Dans chaque demi-journée, il y a entre 12 et 15 spectacles, animations différentes qui se chevauchent mutuellement les unes les autres. De telle manière à ce que la population, l'affoulement, soit distribuée sur beaucoup d'endroits différents. Et donc là, on a quelque chose de particulier qui fait que l'affoulement est distribué sur les différents spectacles et animations au même moment. Et cette distribution signifie qu'on va avoir des fêtes qui sont à l'espagnol, en quelque sorte. C'est-à-dire ce sont des fêtes qui vont donner lieu à ce qu'on appelle le poteo au Pays Basque, ou le paseo, je crois, en espagnol. C'est-à-dire le fait qu'on se promène de bar en bar, de lieu en lieu, pour faire la fête. On n'est pas statique. On ne reste pas au même endroit. Et donc on a, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces photos. Vous voyez, vous avez des petits groupes, là, au premier, la photo de gauche, on a deux personnes qui discutent. Mais si vous regardez un petit peu plus finement, vous voyez, il y a des gens qui vont vers la droite, d'autres qui vont vers la gauche. Ça circule. Dans l'autre photo, vous avez, on est rue Panneau, encore une fois, c'est un moment assez creux d'ailleurs, il y a peu de monde, mais vous voyez donc des petits groupes qui circulent d'un endroit à un autre. Et donc il y a quelque chose, je crois, de très intéressant pour la sociologie générale, là pour le coup, mais aussi pour la sociologie de la fête. Les individus ne sont pas isolés, ce sont des petits collectifs qui bougent d'un endroit à un autre avec des code assez particulier pour éviter de se perdre, pour éviter que le petit groupe se scinde, se perde, se délite, y a des gens qui peuvent se rajouter, éventuellement ensuite l'équité, mais il y a un espèce de noyau dur qui va toujours se maintenir les uns à côté des autres, y compris dans les foules les plus compactes. On pourra décrire ça éventuellement, si vous voulez, par la suite. Mais il y est, je crois, important de comprendre que ce ne sont pas des foules où des individus atomisés sont noyés dans un bloc. Ce sont au contraire des petits collectifs qui se promènent et qui cheminent durant toutes les fêtes. Cela évite de croire que l'on peut utiliser dans ce cas-là les argumentaires de Tarde, Lebon, Canetti, etc., ou Tchakotine, où on a des foules politiques, où en quelque sorte le fait d'être dans la foule signifie une dégradation, une dégringolade sur l'échelle de la civilité. On reviendra quand même malgré tout sur cette dégringolade qui existe aussi, mais elle prend une autre forme. Dernier point de cette présentation des thèmes, des axes avec lesquels cet affoulement peut être étudié, en tout cas au stade où j'en suis de mon travail, c'est que cette foule que l'on fait venir, eh bien on la consomme. Hein. Donc je garde cette image de la foule comme l'acteur. C'est pas la foule qui consomme, c'est la foule qui est consommée en quelque sorte par la ville, de la manière dont on l'a acceptée, et donc elle va être distribuée, cette foule, au travers de plus de 250 bars et restaurants dans la ville, hein, c'est énorme, et là, évidemment, donc là vous avez deux modalités, celle qui se trouve donc encore une fois au bout de la rue des Basques, donc là il y a sur votre gauche, de l'image de gauche, vous ne le voyez pas, mais si vous connaissez, vous reconnaîtrez facilement la talanquère, j'appelle ça comme ça, cet espace de service du bar du marché, qui est un haut lieu des fêtes de Bayonne, et vous voyez attabler les quatre derniers festaires d'une table qui comporte 150 places en pleine rue. Et il y a trois services l'après-midi, à partir de 2h de l'après-midi jusqu'à 6h, trois services. Et donc les gens consomment dans la rue, etc., au milieu de la foule. Et puis là, vous avez quelque chose de beaucoup plus traditionnel, bien évidemment, que tout amateur de la ville de Bayonne peut, bien évidemment, donc. Tout amateur, la ville de Bayonne peut se réjouir. C'est le championnat du monde, il faut dire le moins, championnat du monde de l'omelette au piment, hein, qui est un grand classique de la restauration locale. Ce n'est pas uniquement un gag. Quand je parlais de l'enrichissement culturel de l'activité festive, c'est l'omelette au piment, ce n'est pas l'omelette. Hein, parce que c'est l'omelette au piment, le piment d'Espelette, etc. C'est une forme d'introduction de cette culture basque au sein même de la fête par le biais de la nourriture. Alors, tout ça pourquoi ? Alors, l'argument que je voudrais présenter, c'est le fait que la foule, l'affoulement produisent un résultat qui n'existe pas, en tout cas pas au même niveau, dans des foules plus limitées ou dans des fêtes de volume plus limité. Ça produit, me semble-t-il, un fait social spécifique, ce que j'appelle l'ambiance. Et bien souvent, quand vous discutez avec les festailles, et notamment les festailles qui viennent de, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui venaient de Perpignan ou d'autres qui venaient de Grenoble, et je leur dis, mais pourquoi vous venez là? Qu'est-ce qui vous attire? L'ambiance. Et je pense que cette idée-là est vraie. Il y a donc une ambiance qui est liée à l'affoulement, c'est-à-dire à la présence simultanée de beaucoup de gens sur le même lieu, la joie qui ressort des visages, des groupes, les gens discutent, rient, s'amusent, etc. Il y a bien évidemment aussi un bruit qui est lié à cette foule qui a envahi la ville et qui est assez impressionnante. Il y a une chose que je connaissais déjà, mais que j'ai revécu là à la suite de l'observation que j'ai faite en juillet 2017, c'est qu'en gros, de 9h30 du matin, quand les premiers musiciens, donc les gaiteros, hein, la gaita, c'est une forme de flûte au son aigre, assez déplaisant d'ailleurs à mon goût, mais ça c'est autre chose, mais les premiers groupes de gaiteros traversent la ville, en gros pour réveiller la ville, hein, ça y est, la fête recommence, de 9h30 du matin jusqu'à 3h de la nuit, la ville est complètement noyée dans une bulle de bruit. Où les rires, les cris, les chants, les pleurs, la musique de tous les se mêlent et il y a une espèce d'enveloppe de bruit. Et la chose surprenante, c'est le lundi soir. La fête s'est arrêtée à 3h du matin le lundi, puisque la fête se termine le dimanche. Et le lundi soir, pour la première fois, le silence est revenu sur la ville. Et assez symboliquement, les voisins qui étaient en face de chez moi, jusque-là, ouvraient leurs fenêtres mettez la musique, regardez ce qui se passait en bas, attendez de savoir que si l'animation était assez grande pour descendre aux fêtes. Et ce soir-là, les fenêtres étaient fermées et la télévision était allumée. Donc on voit bien cette différence et le calme régnait sur la ville. Les gens qui seraient venus là en disant « c'est les fêtes de Bayonne », se sont dit « mais c'est une ville complètement morte, il ne se passe rien ». Donc il y a quelque chose de particulier, c'est cette idée-là, me semble-t-il, qui est capturée par l'idée d'ambiance. Alors, d'une manière zimélienne, qui n'est là pour le coup pas très durkheimienne, les sens sont tous sollicités. L'œil. L'œil est saisi par la vue de cette masse de gens et une foule qui a une caractéristique que vous l'avez peut-être remarqué dans les photos antérieures. On le voit là, par exemple ici assez clairement. Vous voyez ces tenues en blanc avec ceinture rouge, la cinta, et un foulard rouge, éventuellement un béret basque, rouge lui aussi, donc blanc et rouge. Depuis les années 2000, la tenue des fêtes de Bayonne est devenue quasiment uniforme pour les fêtes. Et donc, ça produit un effet visuel tout à fait particulier. On est dans un monde où on voit bien que ce n'est pas exactement la même chose qui se passe que ce qui se passe d'habitude. L'œil. Deuxièmement, l'oreille. J'ai déjà évoqué le bruit qui est dans la ville à ce moment-là. Et ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard, puisque dans les archives, je l'évoque rapidement, parce que je n'ai pas le temps de m'y arrêter, je ne voudrais pas être trop long quand même. Dans les archives, il y a un moment où un des membres du comité des fêtes qui fait une proposition complémentaire à celle de Benjamin Gomez, et il écrit explicitement « il faut qu'il y ait de la musique ». Et il insiste « il faut même qu'il y ait du bruit ». Pas de la musique, du bruit, parce que la fête sans bruit, ça ne marche pas. Si on veut entraîner les gens, il faut qu'il y ait justement cet entraînement par la musique, voire même par le bruit. On peut avoir des points de vue distincts par rapport à ça. Si on pense par exemple à Pascal Quignard, la haine de la musique, on peut avoir des réserves par rapport à ça. Mais là, au contraire, si on veut faire la fête, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du bruit, etc. Donc l'oreille est saisie. Et chose aussi extrêmement importante, compte tenu de la masse des populations qui sont réunies pour les fêtes de Bayonne, les corps, c'est-à-dire le toucher. Les corps sont sollicités. Si vous voulez avancer dans une direction donnée, très souvent, il va falloir que vous frottiez, vous passiez entre des corps pour pouvoir avancer, éventuellement en vous accrochant à la cinta des personnes qui sont devant vous, qui forment votre groupe, pour ne pas se perdre si jamais deux corps se rapprochent devant vous. Et donc, il y a, en quelque sorte, une manière très inhabituelle de se promener dans la ville, corps à corps, en quelque sorte, complètement opposé à ce que on appelle la phobie du contact, théorisée par Canetti. Donc voilà à peu près, me semble-t-il, le cadre. Mais une fois que ce cadre est fixé, il y a un élément en quelque sorte irréductible de la fête, y compris dans sa dimension dionysiaque ou qui dépasse en quelque sorte les règles habituelles éventuellement de la fête telle qu'on la voit, c'est le moment de la soirée. À partir du moment où la nuit tombe, la fête qui jusque-là est une fête très familiale, vous pouvez avoir des gens qui viennent à la fête avec des enfants en bas âge, éventuellement qui les portent sur les systèmes là de maintien du bébé sur le corps du père ou de la mère, avec des poussettes, etc. On voit même des gens avec une canne, des vieux qui se déplacent difficilement, qui viennent à la fête dans la journée. Mais dès que la nuit tombe, donc vers 19-20 heures, la nuit tombe, jusqu'à 10h, 10h30, ça va, mais après, là, on rentre dans un monde qui est le monde de la nuit, et avec le monde de la nuit, les choses changent. Et le moment de la décivilisation, en quelque sorte, lié à l'alcool, lié à l'exubérance, lié au fait de la nuit qui fait que les comportements vont changer, et disons, en étant un peu pudique, on pourra éventuellement dépasser ces frontières, les règles habituelles de l'hygiène, notamment lorsqu'il s'agit d'évacuer le trop-plein de bière, les règles sont véritablement complètement différentes de celles de la vie diurne et de la vie civilisée habituelle. Pour le dire en clair, les gens, hommes et femmes, pissent dans la rue, partout, n'importe quand, n'importe comment. Ce qui est quand même pas habituel dans la vie même un petit peu endiablée que nous connaissons. Et j'étais très content de cette manière de faire cette photo qui est en bas. Donc vous avez toilette comunac, hein, qui est le terme basque. Et devant, vous avez les fûts de bière qui ont été en quelque sorte les coupables de ce qui s'est passé. Et on voit bien cette espèce de choc, hein, qui est créé à ce moment-là dans, dans la ville. Conclusion. Pour ramasser en quelque sorte les différents éléments un peu épars, mais j'espère quand même relativement bien centrés, en tout cas suffisamment pour la discussion. Première conclusion, c'est le fait que, un petit peu à la différence de ce que Mauss et Durkheim ont mis en évidence, il y a une construction politique et sociale de la fête dans le monde contemporain, en tout cas dans le cas de celui que j'étudie avec les fêtes de Bayonne. Et ce monde-là est un monde dans lequel économie et fête sont étroitement liées. Et c'est, disons, le premier pas de ce que je souhaitais mettre en évidence. Elles le sont pour des raisons différentes, hein, la crise économique en 1932, ou tout simplement une source de développement économique pour les commerçants. En deux mots, certains de ceux avec qui j'ai pu avoir des discussions approfondies sur leur fonctionnement économique m'expliquent que dans la semaine des fêtes de Bayonne, ils peuvent faire jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Et certains, même de débits de boissons, vont faire 90% de leur chiffre d'affaires annuel dans cette semaine-là. Donc, pour ces gens-là, effectivement, la fête est une affaire économique avant toute chose. Et je crois qu'il serait vain d'aller à l'encontre de cette... Par ailleurs, la ville y trouve aussi son avantage, dans la mesure où ça lui donne une visibilité au niveau français, voire européen. J'ai vu dans les années précédentes des touristes japonais avec leur Lonely Planet, où on leur disait il faut venir aux fêtes de Bayonne pour voir un peu ce qui se passe, ce qui est à l'époque où moi je faisais les fêtes en tant que festaire et non pas en tant que sociologue observateur, ce qui n'est pas vraiment la même chose, je vous le garantis, des choses pareilles ne seraient même jamais venues à l'esprit. Donc il y a une visibilité qui est donnée à la ville par la fête, qui est, je crois, aussi un des motifs importants pour le maire à continuer dans cet exercice. Et enfin, dernier point de cette dernière conclusion, en quelque sorte, de cet exposé, c'est que malgré les infidélités, en quelque sorte, que je suis amené à faire vis-à-vis de la thèse centrale de Durkheim d'un côté et de Mauss Boeschal de l'autre côté, eh bien, j'ai le sentiment, mais c'est une phrase fourre-tout qui permet de justifier presque n'importe quoi, hein, bien évidemment, vous ne serez pas dupe de ça, mais après tout, ce clin d'œil n'est pas non plus complètement aberrant. Je n'ai pas d'autre ambition, écrivait Durkheim à Mauss, je n'ai pas d'autre ambition que de voir mes travaux ne pas rester stériles. Je ne tiens pas à ce qu'on loue mon talent ou mon style, mais à ce que la peine que je me donne soit utilisée et que je le sente. Je pense que Durkheim ne sent plus grand-chose de ce que je peux faire, bien évidemment, mais je crois quand même, d'une certaine façon, même si on modifie les points de vue qui ont été les siens, d'une certaine façon, il y a une forme de fidélité au travail qu'il a pu mener dans le cadre de ce que j'ambitionne de faire à mon tour, c'est-à-dire cette sociologie économique de la fête, en prenant le cas des fêtes de Bayonne. Merci.